viennent à cœur. Noël approche et comme je disais à l'école dimanche, si la tendance se maintient, il va être blanc. particulièrement aujourd'hui. Et Noël va être à nos portes. Puis les chrétiens du monde vont se rappeler un des grands moments de l'histoire de l'humanité. Ou comme l'ange dit à des bergers à Bethléem, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Un sauveur, quelqu'un qui va vous pardonner vos péchés, qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est intéressant parce que on entend encore un petit peu, en tout cas, la musique de Noël ici et là, dans les médias, dans les centres d'achat. Chez nous, on a sorti nos CD aussi de Noël. Mais bien qu'on entende beaucoup encore de cantiques de Noël, la chrétienté en général, tant sur la place publique que dans les foyers, a de plus en plus de difficultés à se rappeler le mystère de l'incarnation du Dieu éternel. Un Dieu éternel qui s'est fait petit enfant de Marie. Ce Dieu éternel qui est né ici-bas afin que nous puissions naître d'en haut et devenir des enfants de Dieu. Comprenez-vous tout ça, vous autres? Moi, c'est un mystère encore pour moi. C'est un mystère, je ne comprends pas tout. Mais je sais qu'en oubliant progressivement le mystère de l'incarnation, on avance et on oublie aussi progressivement le mystère de la rédemption. Et on oublie, on commence à éloigner ce mystère de la glorification du Seigneur. On ne comprend pas tous les détails de ces grandes vérités du christianisme, mais on les accepte par la foi. Et encore, année après année, ce n'est pas la première fois, j'imagine, vous êtes chrétien, qu'on aura période de Noël, qu'on aura un spectacle de Noël, qu'on aura des messages de Noël. Mais que ces vérités puissent demeurer encore aujourd'hui des mystères, bien entendu, mais qui doivent continuer de susciter notre émerveillement, notre admiration, nos louanges. Quand on avait l'étude récemment encore dans Luc chapitre 21, Jésus, dans son dernier message public, il avait fait la promesse de revenir sur une nuée. Il a dit, je vais revenir sur les nuées. Puis il a demandé à ses disciples de veiller, de prier pour pouvoir paraître debout à son retour. Jésus revient sur les nuées. C'est pas le Père Noël qui se promène là, puis sur les cheminées. C'est Jésus qu'on attend, qui revient sur les nuées. Il avait dit dans Luc chapitre 21, verset 27, il dit, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et avec une grande gloire. » Alors il dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses de se laisser endormir par les soucis de la vie, ces choses d'oublier Jésus. Veillez, priez pour avoir la force d'échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme, nous disait Jésus dans Luc 21, 36. » Rappelons-nous encore ce matin et célébrons encore ce matin que c'est Jésus qui est la raison des fêtes, qui est la raison pour la saison et que c'est lui qui doit être l'objet de nos célébrations. Je recevais une petite méditation de la part de mon frère Serge la semaine passée où il y avait toutes sortes de feuilles où on expliquait la notion que Jésus avait tout fait pour être célébré. Mais finalement, dans sa grande tristesse à lui, on l'avait oublié partout. C'est supposé être lui qu'on fête. Mais tout ce qui était partout, ce qui se passait, on l'oublie. Rappelons-nous ce matin, puis célébrons ce fait-là. Mettons sur notre cœur cette décision de se rappeler que Jésus est l'objet de notre joie, de nos célébrations. Et j'aimerais qu'on tourne dans Apocalypse chapitre 1, les versets 5 à 8 ce matin, pour se rappeler justement de Jésus, pour célébrer Jésus à travers ce qu'on appelle trois grands mystères du christianisme. Ces versets-là vont nous parler de l'incarnation, de la rédemption et de sa glorification. Et que ces textes ce matin nous encouragent à réaliser que c'est lui la raison pour la saison et qu'on a besoin de le célébrer. Vous avez trouvé Apocalypse chapitre 1? On va d'abord demander la grâce de Dieu encore à comprendre son texte. Seigneur, merci que tu es venu parmi nous. Tu nous as tracé le chemin du ciel et tu nous as fait la promesse que tu allais revenir. Seigneur, on veut te prier qu'encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous puissions veiller, prier, garder, lever nos têtes, parce que cette délivrance approche. Alors Seigneur, encourage-nous encore par ta parole, par tes promesses ce matin, à vivre pour toi, en gardant nos yeux élevés, en attendant ton retour. Et on te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 1 et le verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. C'est le temps de Noël pour se rappeler trois grands mystères du christianisme. Et ce premier est celui de l'incarnation. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. La première lettre de l'alphabet grec, puis la dernière lettre de l'alphabet grec. Je suis la communication de Dieu d'un bout à l'autre. Je suis aussi le premier. Je suis le dernier. Ce Dieu éternel. Ce Dieu que le temps n'a pas de poids. Ce Dieu éternel, un jour, est entré dans l'histoire humaine. Et aujourd'hui, on dit « je suis en 2007 ». Pourquoi je suis en 2007? C'est à peu près 2007 années où le Dieu éternel a décidé d'entrer dans l'histoire humaine. Incroyable! Celui qui est éternel, celui qui dit « je suis le Tout-Puissant », un jour, le Dieu Tout-Puissant a décidé de venir être chair, entrer dans le sein de Marie et naître humblement, faible. Comprenez-vous ça, vous autres? Que ce Dieu Tout-Puissant, en venant voir sa création, choisit de naître à travers une maman humble, on lisait le mercredi, on regardait la nativité, dans la bassesse d'une servante, il décide de naître parmi nous. L'apôtre Jean est fasciné par cette notion de Jésus, de ce Dieu éternel qui vient ici-bas sous la forme humaine. Il a commencé son évangile avec cette notion-là. Il a commencé sa première épître avec cette notion-là. Il a commencé l'Apocalypse avec cette notion-là de l'apôtre Jean. L'éternité divine qui s'est fait chair en Jésus. Vous connaissez Jean 1:1, vous le connaissez bien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par lui. Et là, il arrive au verset 14. Et la parole a été faite chair. Ce Dieu qui existe de toute éternité, cette parole de Dieu qui est Dieu lui-même, se fait chair. Ça l'étonne. Si vous tournez dans 1 Jean, au chapitre 1, il va dire la même chose. Il va parler à peu près de la même manière. Vous avez tourné peut-être 1 Jean chapitre 1, regardez le premier verset et le verset 3. Jean dit, « Ce qui était dès le commencement, il dit, ce qu'on a vu, ce qu'on a contemplé nos yeux, ce que nos mains ont touché de la part de Dieu, il dit, on vous l'annonce, vous aussi, on vous l'annonce afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Il dit, Jean dit, le Dieu du commencement, le Dieu éternel, invisible, tout-puissant, on l'a vu, on l'a contemplé, on l'a vu marcher, on l'a touché. Incroyable! Et aujourd'hui, on est en communion avec lui. Puis on voudrait que vous ayez cette même communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Et on arrive maintenant dans l'Apocalypse. Et il mentionne cette même notion au verset 5, au verset 18. Il nous dit qu'il est le témoin fidèle. On nous dit qu'il est le premier-né des morts. On nous dit qu'il est le prince des rois de la terre. Il dit, « J'étais mort » au verset 18. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. » Et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le Dieu vivant, le Dieu éternel, il affirme à un moment donné, j'étais mort et je suis vivant, j'ai vaincu la mort. Et maintenant, j'ai les clés, j'ai le pouvoir sur le séjour des morts. Comment est-ce que Dieu s'est fait humble, est devenu l'humble enfant de Marie? Moi, je comprends pas ça, je comprends pas tous ces détails-là. Mais je sais et je crois, la Bible dit, il est Emmanuel, il est Dieu avec nous. Et pendant ce mois-ci, je veux célébrer ça. Je voudrais célébrer l'enfant Dieu, comme les cantiques le mentionnent. Célébrer sa venue, le fait qu'il soit venu dans l'humilité. J'ai le désir encore de célébrer Noël, même si je ne comprends pas toute la grandeur de ce que ça veut dire, le mystère de l'incarnation. On va célébrer Noël, on va célébrer l'enfant Dieu. J'espère que c'est votre désir aussi, de célébrer sa venue. En célébrant sa venue, je célèbre aussi la raison de sa venue. Et c'est un deuxième grand mystère. Dans le chrétien, la rédemption. Jésus, il est venu. Et la Bible dit, Jésus a vaincu. Il est venu parce qu'il nous aime, au verset 5 encore de Apocalypse chapitre 1. À celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je veux célébrer Noël parce que Noël, c'est le début de la célébration de la rédemption. Dieu m'aime. Car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez le verset bien. Il m'aime et il a voulu nous délivrer de nos péchés par son sacrifice sur la croix. Et au verset 6, il nous aime, il nous a rachetés. Il a vaincu le péché et la mort. Pourquoi? Pour qu'il fasse de nous, verset 6, qui a fait de nous un royaume, un peuple de rois, un peuple de dignitaires du ciel. Vous considérez-vous comme ça? Oui. Dieu a fait de nous des gens qui étaient haïssables, des pécheurs. Il nous a fait de nous un royaume, des gens qui appartiennent à un royaume, des gens qui sont des dignitaires du roi. Et pas juste un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. On peut se présenter librement devant lui. On peut lui offrir directement nos cœurs, nos vies en sacrifice. On peut communiquer aux autres en tant que prêtre les merveilles des vertus de Dieu. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a été l'agneau immolé. Premier-né d'entre les morts. Regardez encore le verset 7. Voici, il vient sur les nuées. et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il a vaincu la mort. Il était l'agneau qui est immolé, mais qui présentement est au ciel. Il est le rejeton de David. Il est né de manière humaine. Et il est monté au ciel avec l'autorité maintenant de diriger l'avenir. Tournez dans Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Oh, il y a une vision du ciel. Et il y a un livre scellé. Un livre qui va raconter qu'est-ce qui va passer dans l'histoire, dans le futur. Et dans le ciel, il dit, on a regardé, puis il n'y avait personne qui avait l'autorité, puis il n'y avait personne qui avait la dignité d'ouvrir ce livre scellé. Puis au verset 5 du chapitre 5, il dit, « Et l'un des vieillards me dit, pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Cet agneau-là avait vaincu la mort. Regardez le verset 7. « Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Il avait l'autorité. Il a vaincu pour être capable d'ouvrir le livre et ses sceaux. Il a vaincu pour être capable d'avoir l'autorité de diriger l'avenir. Jésus est venu. Jésus a vaincu. Parce qu'il m'aimait, parce qu'il t'aimait. Comprends-tu ça? Comprends-tu que quelqu'un de tout puissant, d'extrêmement digne, qui n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de toi, mais de façon inconditionnelle et d'un amour qui ne s'achète pas, a dit, je vais descendre. Je vais devenir un être humain. Et je vais porter la peine pour eux. Et nous a délivrés de nos péchés par son sang, par son sacrifice. Il a souffert pour moi. Il m'a tant aimé. Pour le désir que je devienne son enfant, pour que je passe l'éternité avec lui. Comprends ça, vous? Moi, je ne comprends pas ça. Plus je regarde mon cœur, plus je ne comprends pas l'amour de Dieu qu'il a eu pour moi. On chante dans Célébrons Dieu un chant. Ça dit, je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Je ne comprends pas tout. C'est un mystère. Mais je sais, par exemple, qu'en lui j'ai la vie. Je sais. Je l'ai accueilli par la foi. La Bible affirme qu'on était haïssable plutôt qu'aimable, mais que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, selon sa miséricorde, nous a sauvés. Nous étions des ennemis de Dieu, puis Dieu nous a réconciliés. Tournez avec Romains chapitre 5. Hier, j'étais au chevet de mon papa. Ma mère a dit, je pense qu'il va chanter Noël avec le Seigneur. Je ne sais pas. Il était dans une maison de transition. Il est transféré maintenant à l'hôpital. Puis c'est ça. Il va partir bientôt. Mais j'étais avec lui, puis on regardait Romains chapitre 5, les versets 8 à 10. Puis Dieu prouve son amour envers nous lorsqu'on est encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est vrai, ça. J'étais un pécheur. Mais Christ est mort pour moi. Christ est mort pour mon papa. Il dit, à plus forte raison, maintenant qu'on est justifié par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Maintenant qu'il nous a justifiés par son sang, puis qu'il est ressuscité, puis qu'il est au ciel, il intercède pour nous, on va être sauvés de la colère parce qu'il nous a déjà justifiés. Verset 10, car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés par Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison maintenant, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Quelle assurance nous avons? Je ne comprends pas tout ça, moi. Mais je sais que Dieu a prouvé son amour envers nous parce que lorsque j'étais un pécheur, Christ est mort pour moi et il est mort, et il est ressuscité, il intercède pour moi. Puis quand je vais mourir, bien, je vais être sauvé par lui, par sa vie, pas juste par sa mort. Je vais être au ciel avec lui. Quelle espérance! 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30-31 dit, « Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je ne comprends pas tout de la rédemption, mais je crois que j'ai été racheté et que sur la base du sacrifice de Jésus-Christ que j'ai accueilli par la foi, je vais être au ciel avec lui. Ça me donne de l'assurance pour aujourd'hui, dans la vie, puis ça me donne de l'assurance aussi quand vient la mort. Mon papa est encore solide dans sa foi. J'ai des frères, j'ai une sœur qui ne connaît pas le Seigneur encore, mais qui voit mon papa, qui voit ma maman, qui dit, comment, mon frère disait à ma mère, comment tu vis tout ça, cette affaire-là? Maman dit, je suis triste, mon mari va partir, mais je sais qu'il va être au ciel. Puis ça me donne de la joie, ça me réjouit. Ça me réjouit aussi, de partager ma foi avec mon papa, puis de dire, oui, je vais être là. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Les 24 vieillards, ils se prosternaient devant l'agneau. Puis ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. » Pourquoi? Parce que tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Au ciel, on chante à la gloire de Christ présentement. Et au ciel, on y présente nos prières de reconnaissance pour notre salut. Parce que ces 24 vieillards-là, ils tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. On célèbre la gloire de Dieu au ciel à travers vos louanges. Et je veux vos louanges à cause de votre salut, à cause de la rédemption. Et qu'ici-bas encore, pendant ce temps de Noël, on puisse nous glorifier dans le Seigneur. Jésus dit, que Paul dit dans 1 Corinthiens 1:31, que celui qui se glorifie, que celui qui est fier, que celui qui a des belles choses à raconter, qui le passionne, qui se glorifie dans le Seigneur, puissions-nous lui rendre tous nos hommages pour la rédemption, parce qu'il est vainqueur. Jésus est venu. Jésus a vaincu. Et troisième grand mystère, Jésus revient. Et ça aussi, ça doit être un sujet de joie. Il revient bientôt. C'est ce qu'on a lu encore dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. De la même manière qu'il a promis dans Luc chapitre 21, verset 27. On verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et Apocalypse 1, 7 dit, tout œil va le voir, tout œil le verra. Ceux qui l'ont reçu comme sauveur, ils vont le voir. Et même ceux qui l'ont rejeté, même ceux qui l'ont cloué à la croix, même ceux qui l'ont percé, vont le voir aussi. Jésus est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Il est, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Il est le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il nous a dit dans 1:18 de l'Apocalypse. Il est monté maintenant corporellement au ciel. Il nous a envoyé son esprit pour qu'il demeure en nous et que pour lui intercède personnellement au ciel pour nous. Il revient bientôt. Ses disciples qui étaient un peu inquiets dans Jean chapitre 14, quand il disait qu'il allait partir, Jésus leur a donné cette assurance. Que votre cœur ne se trouble pas, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je leur ai dit, mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle va être prête, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comment il va faire ça? Comment il va vaincre la gravité avec des dizaines, centaines de milliers de personnes? Je ne comprends pas tous les détails, mais je sais qu'il va le faire, parce qu'il l'a promis. Jésus prépare le ciel pour ses enfants, puis il va revenir dans la gloire pour les prendre avec lui. Jésus revient pour prendre le plein contrôle de la planète, pour exécuter ce qu'il a promis de faire, le renouvellement de toutes choses, pour inaugurer l'État éternel. Comment tous ces morceaux-là vont se mettre ensemble? Quand Jésus parlait dans Luc chapitre 21, ce commencement des douleurs, suivi de la grande détresse, suivi de son retour en gloire, suivi du millénium, suivi d'une dernière rébellion, suivi du jugement dernier, puis de l'État éternel qui va s'établir. Comment il va connecter toutes ces affaires-là avec, je lisais Ézéchiel cette semaine, Gog, Magog, avec le nouveau temple dans Ézéchiel 40. C'est beau, c'est excitant, je vois une liste, mais comment tout ça va connecter ensemble? Parfaitement, là, dans mon casse-tête, c'est encore un casse-tête. Je comprends pas tous les détails, mais il y a des blocs qui sont clairs. Et j'y crois. Et je crois que selon sa promesse, il a dit, je viens bientôt. Je comprends que l'Ancien Testament, il termine avec une promesse, vous envoyer le Élie, puis il va ramener le cœur des pères vers les enfants, puis les enfants vers leurs pères, et dit de peur que je place le pays dans l'interdit. Il y avait une menace de jugement. Je vais envoyer mon Messie pour qu'il rétablisse les cœurs de peur que je vienne par le jugement. Ça, c'est l'Ancien Testament qui termine comme ça. Mais le Nouveau Testament termine tellement différemment. Apocalypse chapitre 22, il termine non pas avec une menace de frapper le pays d'Israël de jugement, mais il termine avec la promesse de la grâce du Seigneur Jésus qui vient bientôt. Apocalypse chapitre 22, verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit, » ça c'est Jésus qui parlait, « Oui, je viens bientôt, ça c'est sa promesse. Amen, Jean répond. Viens, Seigneur Jésus. Et le Nouveau Testament termine avec cette grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Regardez le verset 17 du même chapitre 22. Comment ça doit réagir dans nos cœurs? Il nous est dit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Qui est l'Épouse? Les croyants, nous, l'Église, on doit être là pour dire, « Viens, Seigneur Jésus! » Et celui qui entend dise, « Viens! » Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, que celui qui est un croyant dise, « Seigneur, viens! » Puis celui qui n'est pas encore un croyant, celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, il dise qu'il vienne, celui qui a soif, qu'il vienne! Puis qui en prennent de ce lot de salut gratuitement. Il est en train de répéter un peu les textes de Ésaïe, chapitre 55. Que celui qui vienne à soif, vienne sans argent, qui vienne à Dieu, qui va le sauver, qui abandonne son péché, puis qui se tourne vers Dieu, qui se lâche jamais de pardonner. Que l'Église dise « Viens ». Que les non-croyants qui ont soif crient auprès du Seigneur pour qu'ils viennent, qu'ils prennent gratuitement de l'eau de la vie, de salut, pour qu'ils se joignent à l'Église et dire « Viens, viens Seigneur Jésus. » Jésus est venu, Jésus a vaincu, puis Jésus revient. Croyez-vous ça? Ces trois grandes choses-là, moi je me souviens pas beaucoup de mes cours de latin au secondaire. Mais je me souviens dans mon cours de latin, à un moment donné, on parlait de paroles très célèbres de César qui avait prononcé pour annoncer au Sénat romain la rapidité de la victoire qu'il avait eue sur le roi de la région du Pont en Asie mineure. Il avait montré sa puissance à travers trois mots. Je sais pas si vous en souvenez. Veni, Vidi, Vici. Il dit, je suis venu, j'ai vu, puis j'ai vaincu. Et puis là, on a dit, oh, que César est grand! Moi, je lis mon Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Et Jésus, il prend peu de mots. Il dit, je suis l'alpha, le début. Je suis l'oméga, je suis la fin. Je suis le Tout-Puissant. Et il dit aussi, je suis celui qui est, je suis celui qui était, je suis celui qui vient. Jésus dit, je suis venu parmi vous, humble, par l'intermédiaire d'une jeune vierge. Jésus dit, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu la mort pour vous donner le salut. Et Jésus dit aussi, je reviens bientôt pour vous prendre avec moi, pour vivre éternellement en partageant la présence du Père et du Fils dans la gloire. La période des fêtes est cette période-là où on est appelé non seulement à célébrer sa première venue, mais à se glorifier aussi de son salut à lui et puis à anticiper son retour. Et que ce soit dans nos cœurs avec autant de ferveur, avec autant d'effervescence qu'on va en prendre dans les prochaines semaines. À partager Noël dans nos parties de bureau, dans nos familles. Il va y avoir plein de joie, plein d'effervescence. Rappelons-nous pourquoi on est là. C'est Jésus qui est la raison de la saison. Et c'est lui qu'on veut célébrer d'abord. Célébrer son incarnation, sa rédemption. Et en même temps, regarder au ciel, parce qu'il revient bientôt pour que je vive au ciel avec lui. Quel beau message à vivre pendant le temps des Noël. Oh Seigneur Dieu, merci. Tu es venu, tu as vaincu, puis tu reviens me prendre pour être au ciel avec toi. Oh Seigneur, viens, nous t'attendons. Et Seigneur, que nos vies ici-bas, en t'attendant, reflètent cette passion que nous avons de croire en des choses qui nous dépassent. Qu'un Dieu éternel se soit fait homme, que ce Dieu éternel ait donné sa vie pour des impies, et que ce Dieu éternel revient pour prendre ces gens afin de communier avec lui pour l'éternité. Oh, nous nous glorifions en toi, Seigneur Jésus. Tu es devenu notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Reviens nous chercher bientôt. Nous t'attendons au nom de Jésus. Amen.